France Musique.
The next stop is 42nd Street.
Come here, venez.
Laurent Vallière, 42e rue.
Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour ce numéro exceptionnel de 42e rue. Parce qu'on les a toutes comptées, aujourd'hui c'est la 600e. Alors on vous a réuni sur le plateau, la fine fleur de la comédie musicale en France. Aujourd'hui, on les appelle les 6 grosses têtes de 42e rue. Il remplit les salles, il a 6 spectacles à l'affiche en même temps et son dernier, une comédie musicale, les producteurs affichent complet, c'est Alexis Michalik. Bonjour Alexis Michalik.
Bonjour Laurent.
Elle nous a emmené 20 000 lieues sous les mers avec un art affûté de la marionnette, nous a fait voyager au pays de Gulliver, s'installe aujourd'hui avec la Péricole et prépare sa première comédie musicale américaine à l'Opéra Comique, c'est Valérie Le Sort. Bonjour. Il nous a enchanté à la Jacques Demy avec ses chansons mélancoliques dans le film Les Chansons d'Amour. Et il prépare une opérette pour le Théâtre du Châtelet, c'est Alex Baupin. Bonjour Alex Baupin. Il a conquis le monde entier avec son compère, compositeur Claude-Michel Schoenberg et son adaptation des Misérables en comédie musicale vue par 130 millions de spectateurs. Un spectacle qui prépare sa venue enfin à nouveau en France en 2024 au Théâtre du Châtelet, mis en scène par Ladislas Chola. C'est Alain Boublil, bonjour. Bonjour Monsieur Boublil. Dites pas bonjour.
Bonjour.
Ah bah voilà, c'est mieux.
Pardon.
On l'a vu grandir d'une des filles de la famille Van Trapp dans La Mélodie du Bonheur au Châtelet, à Pau d'Âne, au Théâtre Marigny. Elle vient de rejoindre la Comédie Française, c'est la comédienne soprano Marie Aupert. Bonjour.
Bonjour Laurent.
Enfin, certains l'appellent le Messie. Et c'est vrai que sa première grande idée pour faire revenir Starmania sur scène en novembre, c'est de réinstaurer le personnage du gourou écologique. Autant dire qu'on l'attend tous sur scène depuis 2 ans avec impatience. Sa nouvelle production de Starmania, c'est Thomas Joly.
Bonjour Laurent, bonjour à tous et toutes. Bonjour.
Merci beaucoup d'être là tous ensemble. Alors Alexis Michalik, je commence par vous parce que dans le brillant documentaire qui vous est consacré, qu'on a pu voir sur France 5, vous expliquez que quand les répétitions commencent, le premier jour des producteurs, on voit ça. Vous faites une sorte de team building, des exercices pour un petit peu souder la troupe. Qu'est-ce que vous me proposez là pour...
Comme team building ?
Oui,
maintenant. Bah moi, je vous aurais proposé un petit quiz comédie musicale, mais bon, j'ai pas eu de préparation, donc on peut faire des questions un peu comme ça au hasard, et les premiers qui répondent, ils ont bon. Enfin, c'est le genre de choses que je proposerais, par exemple.
C'est vrai ? Ouais. Vous mettez la pression. Alors, allez-y, posez une question tout de suite à Thomas Joly pour
là,
voir,
comme ça,
pour lui mettre la pression.
T'es prêt, Thomas ?
Je suis prêt, allons-y.
Ok, on y va. Bon, bah, on va faire
je gagne,
facile. Hein. Qui est le réalisateur de Sweet Charity ?
Le réalisateur ?
Moi, je pose des questions compliquées. Attention, il y a Valérie qui est là, qui est au taquet. C'est parti.
Ah, Bob Fosse.
Voilà, un point pour Valérie.
Très bien.
On est dans le sérieux. Là, je vois qui est dans le game.
Ouais, je vois les équipes qui s'affinent. D'ailleurs, Valérie Le Sort, je commence par vous. Et votre choix musical. Alors, vous allez mettre en scène votre première comédie musicale de Broadway en décembre prochain à l'Opéra Comique. Et vous nous avez choisi un extrait de La Petite Boutique des Horreurs.
Oui.
Vous pouvez nous faire le pitch de où on est là, à ce moment-là, quand on entend cette chanson qui s'appelle Dentiste.
Alors, on est chez un dentiste sadomaso, complètement taré, qui adore faire souffrir ses patients, qui leur arrache des dents avec plaisir, qui se drogue, qui est complètement défoncé à ce moment-là. Et donc, il chante une chanson pour dire qu'il allait ou être psychopathe ou dentiste, et sa maman lui a conseillé d'être dentiste. Et voilà. When I was younger, just a bad little kid, my mama noticed funny things I did, like shooting puppies with a BB gun. I'd poison guppies, and when I was done, I'd find a pussycat and bash in its head. That's when my mama said,
what did she say?
She said, my boy, I think someday you'll find a way to make your natural tendencies pay. You'll be a dentist. You have a talent for causing things pain. Son, be a dentist. People will pay you to be inhumane. Your temperament's wrong for the priesthood, and teaching would suit you still less. Son, be a dentist. You'll be a success.
Here he is, girls, the leader of the pack. Watch him suck up that gas. Oh my God. He's a dentist and he'll never ever be any good. Who wants
wants their teeth done by the Marquis de Sade. Oh, that hurts. I'm not numb.
Ah, shut up. Open wide. Here I come. I am your dentist. Start extracting those molars. You girls will be screaming like holy rollers.
Dentatast.
And though it may cause my patients distress, somewhere in heaven above me, I know that my mama's proud of me. 'Cause I'm a dentist and a success. Say ah. Say ah. Say ah. Now spit.
Il s'appelle Douglas Sills et il était le dentiste dans cette version de 2009 de La Petite Boutique des Horreurs choisie par Valérie Le Sor. Je crois que vous avez des questions à poser aux grosses têtes qui sont là réunies autour de vous. Vous avez une question à poser à Alain Boublil alors, comme ça?
Oui, une question très intéressante et assez profonde. Est-ce qu'il est sympa, Claude-Michel Schoenberg?
Le compositeur des Misérables avec qui vous avez écrit l'œuvre.
Vous posez la question à moi, qui ai 45 ans de collaboration avec lui.
Non, mais des fois, on travaille avec des gens pas sympas. Bon. On est obligé.
Non, des noms.
C'est plus que sympa. Nous, on a une relation osmotique. Il est plus que sympa. J'ai jamais entendu personne qui m'ait dit qu'il ne l'était pas. Mais enfin, donnez-moi un exemple.
Non, mais je vous explique. C'est une question extrêmement idiote, dite comme ça. Et en fait, moi, j'avais demandé à tout le monde, il est sympa, machin. Donc, c'était en fait une blague à répétition.
Ah, d'accord.
Et là, sorti du contexte, c'est pas du tout drôle. Et au début, c'était plutôt Marie Aupert, est-ce qu'il est sympa, Christian Aix? C'est parti de là. Et puis voilà.
Est-ce qu'il est sympa?
Ah, bah là, je peux pas dire autre chose.
Alors, Christian Aix vous met en scène actuellement dans Le Bourgeois Gentilhomme à la Comédie Française.
Christian et Valérie.
Christian et Valérie.
Oui, s'il vous plaît.
Et alors, bah, allez-y, Valérie n'écoute pas. Est-ce qu'il est sympa, Christian Aix, dans la mise
en scène? Pour moi, Christian, en plus, c'est comme un peu une idole depuis l'adolescence, en fait, depuis que je l'ai vu dans Un fil à la patte à la Comédie Française. C'est vraiment un artiste qui m'a énormément marqué dès l'adolescence. Et donc, pour moi, c'est juste exceptionnel de pouvoir travailler avec lui et avec Valérie sur mon premier spectacle à la Comédie Française. C'est très émouvant pour moi.
Vous aviez aussi une question, Valérie, dans le même style, à Thomas Joly. Vous pouvez la poser, s'il vous plaît?
Qui est sympa, alors?
Raphaël Amberger, c'est sympa.
Le fils de Michel Berger.
Amberger.
Amberger, oui.
Oh, j'en ai marre.
Oui, il est très sympa et ça fait maintenant parce que Starmania, donc Raphaël, qui est donc le fils de Michel Berger et France Gall, avec qui je travaille puisqu'il porte la recréation aussi de ce Starmania. Donc on collabore depuis 3 ans avec le retard que le Covid nous a mis un peu. Et c'est assez passionnant parce que j'ai quand même la chance de travailler avec la personne qui a cette musique dans son ADN, je ne sais pas comment dire. On était en répétition avec les musiciens il y a une petite semaine. Et moi, je suis ravi que ce soit lui qui soit à la direction de la musique sur ce projet-là et de la collaboration en règle générale, parce qu'il a l'œil sur tout et que l'idée était vraiment de travailler avec lui, presque même pour Starmania. On est tous les deux très, très dévoués à l'œuvre. Donc ouais, c'est une très belle collaboration. Je suis très heureux de ça.
Bon, ça vous va la réponse de Thomas Joly, le metteur en scène de Starmania, Valérie Le Sor?
Très satisfaite, merci.
Merci à vous. En plus, vous êtes venu avec un cadeau, Valérie Le Sor. Trop merci. Oui, parce que vous composez aussi des airs, enfin vous écrivez des airs pour vos propres spectacles musicaux. Ah. On a adoré les voyages de Gulliver. D'ailleurs, vous incarniez la terrible impératrice Kachasa.
C'est ça.
Et vous êtes très modeste, vous avez écrit donc une chanson qui s'intitule « Grain de poivre ». Composé par Mich Ochoviac. Et vous avez apporté non pas un enregistrement par votre voix de cet air, mais par celle avec qui vous alternez, Emmanuel Bougerolles.
Oui, c'est mieux, je pense.
On va juger.
Ne jugez pas le grain de poivre à sa petite taille. Goûtez-le et vous verrez comme il... Maman m'a toujours dit: c'est pas le moine qui fait la pie, c'est pas pas la taille qui compte, que tu sois nain ou mastodonte, que tu sois maigre, petit ou gros, que tu sois maigre, beau, pas beau. Tout se mélange, tout tourbillonne, on oublie tout, on s'abandonne. Je suis un grain de poivre, tout petit grain de poivre, goûtez-moi. Je suis un grain de poivre,
petite, petite,
un petit grain de poivre,
petite, petite,
goûtez-moi. Tu sens que ça pique, tu sens que ça coupe et toutou pique.
Elle s'appelle Emmanuelle Bougerolles dans une chanson écrite par Valérie Lessort, mais vous allez un jour en composer une comédie musicale, Valérie Lessort, franchement.
Mais c'est mon rêve, c'est mon but, je fais tout ça pour ça, depuis toute petite, ouais. Ouais, ouais.
Alors, à votre gauche...
Ça prend du temps, hein.
Alain Boublil, oui. Qui est en train de vous donner quelques conseils pour commencer. C'est-à-dire, Alain Boublil, vous qui avez co-créé Les Misérables en 1986 avec Claude-Michel Schoenberg, qui est toujours encore
1980.
À l'affiche. En 1980,
à Paris,
et puis en 86,
la version originale en français,
à Londres, exactement. Qui est toujours à l'affiche à Londres. Toujours. Premier conseil à Valérie Lessort.
37 alors. Ans. Ben, c'est que ça prend du temps, d'ailleurs. Ça m'amène à ma question à Alexis Michalik. Je voulais lui demander comment il fait pour écrire 3 pièces à succès par an, alors que ça me prend entre 3 à 15 ans pour finir d'écrire une comédie musicale.
Eh ben, parce que c'est pas des comédies musicales, donc ça prend moins de temps. Et puis surtout, c'est pas 3 par an, c'est 1 tous les 3 ans, ce qui déjà facilite un petit peu le...
Et après, comment on fait pour les réunir toutes en même temps à Paris, dans la même année?
Il suffit que par un coup du hasard, elles ne quittent pas l'affiche.
Voilà.
Et donc, ça s'accumule. Mais c'était pas prévu, on va dire. Hein.
Moi, j'imagine, et j'espère.
Moi, j'avais prévu de faire une pièce, et puis peut-être une autre après, et puis une autre après. Et puis bon, il se trouve qu'elles sont toutes encore à l'affiche. Maintenant, je sais pas combien de temps les producteurs vont rester à l'affiche, mais puisque c'est un autre... C'est une autre dimension, on va dire, de production. Mais c'est super. Et puis c'est marrant, ça fait travailler beaucoup, beaucoup de comédiens et beaucoup de régisseurs, de techniciens, de billeurs, tout ça. Enfin,
Alors justement, moi, j'ai une
Thomas
question.
Thomas Joly, vous qui
êtes
maître en scène Starmania.
Tu es passé, donc tu as monté des pièces de théâtre, tu viens d'en parler, et c'était ta première comédie musicale
Officielle, on va dire.
Officielle ouais, ouais, ouais. Ah, ça veut dire qu'il y avait des comédies musicales cachées que tu
Non,
nous
c'était
pas
la première professionnelle, on va dire. Celle où vraiment, il y avait des gens qui étaient des chanteurs professionnels. Avant ça, j'avais monté des trucs, mais on ne savait clairement pas chanter.
Et qu'est-ce que tu as appris alors de passer? Parce que je vais le faire, donc je cherche quelques conseils. J'ai beau être, comme tu dis, le messie, je viens juste à la source quand même, prendre quelques enseignements. Qu'est-ce que passer du théâtre comme ça, d'une pièce que tu écris toi-même, à une œuvre qui est écrite et composée par un autre et qui est musicale? Est-ce qu'il y a des enseignements que tu as?
Ouais, je pense que la grosse différence, et je pense aussi que ce soit pareil pour toi, c'est qu'il y a plus de monde à qui tu délègues des choses. Tu vois ce que je veux dire? Quand on fait une pièce de théâtre et a fortiori en plus qu'on l'écrit, bon bah en fait on est un peu en ligne de mire pour tout faire. Et quand on fait une comédie musicale, on a un chorégraphe. Moi j'avais une chorégraphe claquette, moi j'avais un directeur musical, comme tu vas voir aussi. Ouais. On a plein de gens qui sont des professionnels de leur domaine et c'est super! Parce que du coup, t'es pas obligé de toi-même chorégraphier un tango.
Toi-même, par exemple.
Tu dis, j'aimerais bien un tango à cet endroit-là. Et il dit, pas de problème. Okay. Une heure plus tard, il y a un tango qui est chorégraphié, tu vois. Donc ça, c'est génial.
D'accord.
Bon, après, c'est beaucoup de taf, mais comme t'as déjà fait des opéras, je pense que ça va pas te changer énormément de l'ampleur du projet, quoi.
Bon, ça, c'est le point de vue mise en scène, excuse-moi.
Ouais. Oui, Alain
Boublil.
Pour revenir
à l'écriture.
Oui.
Alors, si j'ai un conseil à donner à Valérie, puisque... elle va s'attaquer à l'écriture d'une comédie musicale, c'est se rappeler toujours que, à l'origine, c'est toujours le livret d'une comédie musicale qui fait le résultat final. C'est-à-dire que, quelle que soit la qualité des textes et des chansons, c'est toujours l'histoire qu'on raconte, comme dans n'importe quelle pièce de théâtre, qui fait ou défait l'intérêt de la soirée qu'on va passer dans ce théâtre. Si dans les 3 à 5 premières minutes, on n'est pas embarqué dans ce voyage, ce journey, comme on dit, qui fait qu'on va accepter pendant 2h30 une convention complètement idiote, qui est que les gens ne chantent jamais dans la vie. Et que donc on va les faire chanter pendant 2h30. Que ça soit tout chanté, qu'il y ait des dialogues au milieu ou pas, c'est toujours le livret, c'est-à-dire cette chronologie des événements, cette façon dont s'articulent ou pas dialogues et chansons, particulièrement remarquable dans la version des producteurs qu'a écrite Mel Brooks, qui n'était pas gagnée à partir du film. Et dans toutes les autres comédies musicales qui ont réussi, j'ai jamais vu un exemple d'une comédie musicale qui n'a pas réussi, dont le livret n'était pas l'ossature principale du point de départ et du point d'arrivée de l'histoire qu'on racontait.
Et c'est peut-être pour ça, Alain Boubi, que vous avez choisi, comme choix musical, un extrait de West Side Story, interprété par votre femme et Michael Ball. Je voulais vous faire plaisir, Alain Boubli. Vous êtes là, vous venez de Los Angeles. Ça fait 36 ans que Vos Misérables sont à l'affiche à Londres. Et on a écouté votre femme, Marisa Mora, Michael Ball, One Hand, One Heart, avec l'orchestre Colonne, dirigé par Didier Benedetti. Un enregistrement, évidemment, de West Side Story. Alors, pourquoi ce choix ? Qui n'est pas très original, quand même. Quand on a regardé, on s'est dit, bon, d'accord, West Side Story. Généralement, je...
L'essentiel, c'est qu'il soit patrimonial, pas original. Et en ce qui me concerne, c'est le début de ma vie... Ma vraie vie, c'est celle de ce moment où, en 1963, j'étais invité par pur hasard à, aller voir West Side Story qui était en tournée à Paris sur scène, c'est-à-dire la comédie musicale telle qu'elle se joue à Broadway, avec une troupe américaine de passage à Paris. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans la salle. Et moi, j'ai passé les deux heures les plus probablement révélatrices de ma vie, les plus importantes, à part ma vie personnelle, évidemment. Mais sur le plan de la révélation, j'ai connu ce qu'en anglais, on appelle une épiphanie. C'est-à-dire que je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai commencé à me demander ce que je venais de voir. J'ai compris qu'on pouvait raconter une histoire en chantant et en chanson. Et que finalement, l'interruption de crédibilité qu'il y avait entre la partie dialoguée et la partie chantée n'existait pas, que donc on avait entraîné les gens dans une sorte de voyage complètement impossible. On s'arrête, on chante, on parle, et ça ne surprend personne. Donc moi, cette notion même m'a bouleversé. Je suis resté à me poser des questions pendant plusieurs années. J'avais découvert le théâtre chanté.
Et c'est drôle parce que alors autour de la table, Marie Oppert, Alexis Michalik, Thomas Joly, Alex Baupin, Valérie Lessort, j'avais l'impression que vous buviez les paroles d'Alain Boublil. C'est quelque chose qui
on avait tous choisi West Side Story comme chanson. Il n'y a que Alain Boublil qui a le droit de... Bon, très bien, super.
C'est l'âge,
non,
ça.
Bien sûr, bien
Alexis,
sûr.
Alexis, c'est l'âge. Ça.
L'épiphanie, ça vous est arrivé aussi?
S'il
n'y
a pas de privilège de l'âge,
non,
il
mais
reste
c'est,
quoi
c'est quand même Alexis une comédie Michalik, musicale fondatrice, West Side Story. C'est quand même un truc... moi, c'est le premier film qu'a vu mon père... en 63.
Il veut vieillir, là.
Non, vraiment, il y a quelque chose d'évident et d'universel.
Et je trouve qu'Alain a de la chance de savoir d'où vient son désir. Parce que, en fait, moi, c'est une question que je me pose. Je ne sais pas pourquoi je fais ce métier. Je ne sais pas pourquoi je fais du théâtre. Et quand on a un souvenir comme celui-ci d'une épiphanie, d'un choc qui fait qu'on n'endort pas de la nuit et qu'on, pendant plusieurs années, on se dit, mais moi aussi, je voudrais faire... Enfin, si j'ai bien compris ce que vous nous racontiez. Vous avez de la chance, Alain, de le savoir.
Bah, écoutez, j'ai surtout de la chance d'avoir connu ensuite tous ces gens.
En plus.
C'est-à-dire que je me suis retrouvé à dîner avec Stephen Sondheim. Je me suis retrouvé à avoir, je vais plus loin, une anecdote. Il y avait dans la troupe, l'un des jets de West Side Story, dans cette troupe que j'ai vu sur scène, c'était Bob Avion, qui est devenu le co-chorégraphe de Michael Bennett, créateur de Chorus Line. Et un beau jour, quand j'écris Miss Saigon avec Claude Michel Schoenberg, Cameron McIntosh, le producteur, me dit « Je sais qu'il nous faut comme chorégraphe sur Miss Saigon, c'est Bob. » Je dis « Bob qui ?» Il me dit « Bob Avion ». Je dis « Le Bob Avion de Michael Bennett ?» Il me dit « Oui, bien sûr ». Et là, je me retrouve avec Bob Avion, les larmes aux yeux, en train de récapituler nos souvenirs. Lui sur scène, jeune jet dans West Side Story, et moi, débile dans la salle, qui découvre le théâtre musical.
42e rue, Laurent Vallière, France Musique.
La 600e, les grosses têtes de 42e rue, Thomas Joly, Alexis Michalik, Marie Oppert, Alain Boublil, Valérie Lessort et Alex Baupin, avec un choix.
Oui, quoi?
Alors, vous avez marqué simplement l'étrange Noël de Monsieur Jack.
Ouais. Ah, génial.
Et je ne savais pas vraiment, vous préférez quoi, la complainte de Jack ou le Oogie Boogie Song?
Ah, Oogie Boogie, c'est bien, c'est peut-être un peu long. Non, la complainte de Jack, c'est bien. Ce qui est bien dans l'étrange Noël, c'est qu'en plus, il y a un truc qui est assez rare, c'est que l'adaptation française est remarquable. C'est très bien chanté, c'est très bien traduit, très bien écrit. Et alors là, je pensais, Valérie...
Valérie Lessort.
Il y a un spectacle à faire sur scène, avec des marionnettes, avec un ensemble de trucs sur ce truc-là, qui pourrait être extraordinaire. Puis alors, c'est une machine à cash, quand même, pour Noël, ce truc-là.
Valérie Lessort,
ce qui est une des progressions principales de la comédie française.
Bien sûr.
L'univers de Tim Burton est tellement marqué, et c'est quelque chose que j'admire vraiment, et que je vois pas ce que...
Qu'on peut apporter
amener.
L'apport, oui.
Alors,
vrai.
Du coup, je ferais quoi? J'imiterais un peu les masques et les trucs, et ça n'aurait vraiment pas d'intérêt pour moi.
Ça,
mais j'aimerais bien que quelqu'un le fasse, mais pas moi.
Enfin, moi, je trouve que c'est une grande comédie musicale, L'étrange Noël de Monsieur Jack, ouais,
oui,
effectivement. Et c'est rarement cité. Je trouve que la partition de Danny Elfman, elle est assez remarquable. Et que vraiment, que ce soit en français ou en anglais, il y a un truc qui fonctionne formidablement.
Et puis j'ai l'impression que la complainte de Jack, vous auriez pu le prendre à votre compte.
Avant, j'avais le physique, oui, effectivement.
There are few who deny it, what I do I am the best, for my talents are renowned far and wide. When it comes to surprises in the moonlit night, I excel without ever even trying. With the slightest little effort of my ghost-like charms, I have seen grown men give out a shriek. With the wave of my hand in a well-placed bow, I have swept the very bravest off their feet. Yet year after year, it's the same routine, and I grow so weary of the sound of screams. And I, Jack, the Pumpkin King, have grown so tired of the same old thing. Oh, somewhere deep inside of these bones, an emptiness began to grow. There's something out there far from my home, a longing that I've never known. I'm the master of fright and a demon of light, and I'll scare you right out of your pants. To a guy in Kentucky, I'm Mr. Unlucky, and I'm known throughout England and France. And since I am dead, I can take off my head to recite Shakespearean quotations. No animal nor man can scream like I can with the fury of my recitations. But who here would ever understand that the Pumpkin King with the skeleton grin would tire of his crown if they only understood? He'd give it all up if he only could. Oh, there's an empty place in my bones that calls out for something unknown. The fame and praise come year after year, does nothing for these empty tears.
La merveilleuse voix de Danny Elfman, la complainte de Jack, le choix d'Alex Baupin et la chanson qu'a... Qu'est-ce que vous avez fait avec cette chanson? Thomas Joly, vous, le metteur en scène de Starmania?
Alors, je suis très heureux de l'entendre parce que j'avais le disque en français chez moi. Et quand j'ai passé, j'étais jeune, j'avais 18 ans, les concours d'école nationale avant de rentrer au TNB, j'ai fait en parcours libre la complainte de Jack.
Voilà. Vous l'avez chanté.
Il fallait chanter sur scène. Ouais, ouais.
Alors on peut vous chanter le début.
Demande Alexis Michalik. Oui.
Moi, Jack, l'épouvantail. J'avoue me lasser. Non, c'est le matin. Non,
c'est pas mal. Non, c'est bien. C'est bien. Franchement, fallait.
Mais c'est super.
Ils sont basses.
Moi, j'ai une question.
Alexis Michalik.
Tout le monde peut y répondre. Quelle est la chanson que vous chantez au karaoké? Genre,
Dieu m'a donné la foi. Ophélie Winter. Dieu m'a donné la foi.
Je suis sûr que Thomas Joly, vous chantez Dieu m'a donné la foi.
Au karaoké, oui. Au karaoké,
je comprends.
Ok.
Marie
au père.
Bah moi, j'y vais pas très souvent parce que c'est vrai que ça casse beaucoup la voix, le karaoké.
Oh là
donc
là
ah oui, non, mais je suis très sage.
Si jamais.
Peut-être un truc de Lady Gaga.
D'accord.
Point des soleils.
Ah ouais, avec un truc qui monte quoi.
Ah ouais, non. Ah, oh, ouais, quand même.
Alain Boublil, vous chantez quoi au karaoké?
Moi, j'ai toujours
demande à Alexis Michalik.
Résisté à l'idée d'aller au karaoké, même voilà. À Tokyo, même au Japon.
Ah,
après une grande première.
C'est vrai?
Valérie, je suis sûr que tu as un album de karaoké.
Valérie le sort.
Mais moi, j'y suis allée il n'y a pas longtemps avec la tournée de Gulliver.
Et alors,
j'ai chanté La Roqueuse de Diamants.
Oh, génial.
Parfait.
Et c'était pas mal. Alors après, j'ai vu le film, c'était moins bien que ce que j'imaginais faire, mais c'était quand même intéressant. Je crois que c'est ça, finalement, ma chanson préférée en ce moment.
D'accord.
Non, mais moi, je suis comme Alain. J'y vais pas pour les mêmes raisons. Moi, j'y vais pas parce que, sous prétexte que je suis chanteur, on pense que je vais très, très bien chanter. Je chante très, très mal. Et c'est toujours des... Non, mais on choisit toujours au karaoké des choses très acrobatiques, des chansons de Céline Dion et tout ça, machin.
Pas tout
et
bon,
donc,
pas
tout bon. Ah, si, souvent.
Ophélie Winter,
et
c'est pas
et donc, moi, j'évite
vraiment
ça,
pas.
Mais je fuis ça comme la peste.
Alors, gardez la main, Alex Baupin. Je crois que
oui,
vous avez... Vous avez une question à poser à Marie au père, il me semble.
Oui, parce que t'as commencé... Je tutoie, hein, je suis un peu Kersauzon. T'as commencé assez jeune quand même. Moi je me rappelle qu'enfant, je crevais de jalousie devant les enfants artistes. je sais pas, le gamin qui jouait Gavroche dans Les Misérables. Il y avait une gamine dans une version d'Émilie Jolie aussi qui était passée à Noël.
Le premier qui avait auditionné à Paris, c'était Patrick Bruel, enfant d'ailleurs.
Voilà, génial. Ouais. Ah. Et moi, vraiment, je voulais... Enfin, c'était un truc... vraiment, j'étais très, très jaloux des enfants artistes qui faisaient des trucs de comédie musicale et tout. Et je voulais savoir comment c'était, en fait, de faire ça.
Bah pour moi, c'était un bonheur parce que c'était une vraie passion.
Ah voilà, ça m'énerve.
Désolée. Mais en fait, surtout, ça m'a donné envie de faire ce métier, de pouvoir l'exercer assez jeune. Mais je pense que c'est pas forcément le cas pour tout le monde.
Non, mais bien après... sûr. Non, mais après, il y a des exemples de. Je sais pas ce qui est devenu Billy qui chantait autant des surprises parties. Je sais pas si tu t'en rappelles.
Oh là là, ah oui.
Non, ça te dit quelque chose. Mais je suis vieux, hein.
Vieille.
Oui. Ah, non, ça te dit rien.
Après, la difficulté, c'était quand même de jouer le soir et le lendemain matin de se lever pour aller à l'école, quoi. Ça, c'était
ouais,
le truc plus difficile.
Ouais, mais quand même, c'est formidable. Oh là là.
Ouais, mais après, faut se lever, aller en cours, c'est moins rigolo, quoi. Donc, c'était un peu la double vie plus difficile à soutenir au niveau du rythme. Et après, quand j'ai pu enfin finir l'école, j'étais trop heureuse de pouvoir faire ça à plein temps et de pouvoir dormir le matin et être plus en forme le soir. Quoi.
Alexis Michalik, Marie, quand tu étais enfant, futur devenir, c'était qui ton idole? Toi, tu voulais être qui?
Oh, wow. Bah, j'avais plein d'idoles des stars américaines de Broadway. D'accord. Comme Barbara Streisand.
Ah oui, tu voulais être Barbara Streisand.
Non, je ne pouvais jamais m'imaginer me comparer à un orteil de Barbara Streisand. Mais, mais même des chanteuses américaines comme Kelly O'Hara, Audra McDonald, qui ont aussi chanté dans plusieurs répertoires. Qui ont aussi une formation classique.
Lyrique, comédie musicale.
Voilà, et en tant que comédienne aussi, qui font vraiment les deux, ça me fascinait.
Alors, vous n'avez pas choisi ni Barbara Streisand, ni Kelly O'Hara pour votre choix musical, chère Marie Aupert, mais une chanteuse qui s'appelle Marisha Wallace et qui reprend à sa façon, très soul, cet air de la comédie musicale Annie, Tomorrow.
The sun will come out tomorrow. Bet your bottom dollar that tomorrow there'll be sun. Just thinking about tomorrow clears away the cobwebs and the sorrow.
When
I'm stuck with a day that's gray and lonely, I just stick out my chin and grin and say, oh,
no, no.
The sun will come tomorrow. But you gotta hang on till tomorrow.
Marie Aupert qui est en train de chanter avec Marisha Wallace, sous les yeux ébahis avec Sylvie Chabot.
Tomorrow, tomorrow, I love you tomorrow.
Ah ouais. Ouais, mais il faut cette version-là.
The sun will come out tomorrow. Bet your bottom dollar that tomorrow there'll be sun. Just thinking about tomorrow clears away the cobwebs.
Hallelujah!
I love you. Tomorrow,
You're always a day away.
Elle chantait en même temps que Marisha Wallace dans ce studio entouré des grosses têtes de 42e rue, Alexis Michalik, qui la stimulait. Vas-y, chante.
Moi, j'ai
Thomas Joly qui était...
Oui.
Ébahi. Ouais. Alex Baupin qui était bouche bée.
Bah absolument.
Valérie Lossor qui essuyait une larme, je ne sais pas pourquoi.
Pour faire mon intéressante.
Très bien. Et Alain Boublil.
Admiratif.
Admiratif.
Moi j'ai choisi une chanson un peu moins chiante quand même.
C'est Michalik. Oh. Alors on va en parler de votre chanson. Mais d'abord, dites-moi, Marie Aubert, vous êtes la comédienne des grosses têtes. Vous venez d'entrer à la Comédie Française. Et vous avez plein de questions pour tous les autres académiciens là, des grosses têtes de 42e rue. Allez-y, faites-vous plaisir. Hein. Vous aimeriez poser une question à Thomas Joly, je me trompe hein?
Ah oui, bien sûr. Eh ben, Thomas Joly, je voulais vous demander quel texte de théâtre rêveriez-vous de voir adapté en comédie musicale?
Ah, c'est une bonne question, ça. Quel sujet permettrait d'être chanté? Cyrano, c'est une bonne idée.
Bah, oui,
d'ailleurs, on avait travaillé.
Ah ouais?
Ouais, avec Louis Chédid à ce projet-là.
Ah oui?
Ouais, tout à fait. Un projet qui n'a pas abouti. Et certainement, il y travaille encore. Et je
avec des chansons pop?
Avec des chansons que Louis composait, ouais, tout à fait.
Ah, intéressant.
Et on avait commencé ce travail et c'était assez. Vraiment, ça m'avait vraiment beaucoup intéressé et je l'accompagnais pour possiblement mettre en scène ce projet-là. Donc ça, ce serait une belle idée parce que la matière, en fait, est tellement flamboyante, avec tellement de registres, et puis des personnages, et une langue, évidemment, tellement dingue, que ce serait, à mon avis, une belle idée. Et j'aimerais
et
bien
du coup, les musiques étaient composées sur le texte.
Ouais, tout à fait, par rapport vraiment sur les Alexandrins de Rostand.
Ah, génial.
Ouais, tout
à fait. Faudrait raconter une pièce qui raconte la création de Cyrano.
Ah bah tiens, c'est marrant, ça me dit quelque chose.
Belle idée.
Ah, oui, Alexis. Blague à part, moi,
Alexis Michalik.
J'aimerais bien faire une comédie musicale un jour, si jamais ça devait se faire en Amérique, justement, parce que j'ai un peu l'impression d'avoir fait une comédie musicale sans chanson. Vous voyez ce que je veux dire?
Avec quelle pièce?
Avec Edmond, je trouve que c'est toute l'histoire, la thématique, c'est très comédie musicale. Et il y a beaucoup de musique et il y a plein de moments où je me dis, ah là, il pourrait se mettre à chanter. Et puis bon, bah, ça n'a pas été le cas, mais un jour, pourquoi pas.
Et est-ce que ça veut dire, Alexis Michalik, que vous avez commencé à écrire, je sais pas, je crois que depuis que vous avez 14 ans, vous forcez à écrire chaque jour quelque chose.
Ouais,
est-ce que ça veut dire que vous avez écrit des chansons, des bouts de chansons pour les personnages?
Non, pas du tout.
Ah non,
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 pas du tout, mais un jour, qui sait, peut-être.
Et un livret de comédie musicale?
Oui, peut-être. Mais c'est, en fait, c'est tellement de boulot, la comédie musicale. C'est vraiment.
Oui, si ça prend 10 ans, comme disait Alain, c'est vrai que c'est.
Déjà, de faire une comédie musicale qui existe, déjà, c'est tellement de boulot. Thomas peut être témoin, mais alors Alain le sait, créer une comédie musicale, c'est un travail mais monstrueux, quoi. Parce qu'il faut non seulement le livret, comme on parlait tout à l'heure, mais aussi les chansons, mais aussi ceci, cela.
Et les articuler les uns avec les autres. Et ça prend des années.
Ouais.
Parce qu'il y a une chanson qui n'est pas à sa place. Et c'est fichu.
Ça,
il
c'est
faut
Alain,
tout refaire.
C'est Alain Boublil. Il y a l'expertise avec Les Misérables qu'il raconte sur France Musique.
42e rue, Laurent Vallière, France Musique.
Alors chacun des membres, des académiciens, des grosses têtes de 42e rue est venu avec son choix musical.
Mm-hmm.
Alors, on a bien compris que la complainte de Jack ressemblait un peu, Jack, à Alex Baupin.
Ouais.
Alexis Michalik, vous m'expliquez? Cette chanson que vous avez choisie, Bye Bye Love, qui est quand même le final du film de Bob Fosse, All That Jazz, et qui est l'histoire quand même d'un metteur en scène qui va mourir et qui fait sa dernière représentation sur scène.
Mais c'est merveilleux. Déjà, c'est une métaphore géniale du milieu, de qu'est-ce que c'est que de créer un spectacle, etc. Et puis, c'est un metteur en scène qui voit sa vie en chanson, quoi, sur la fin. Et il voit sa mort arriver. Et donc, et au moment où il est un peu à l'hôpital en train de mourir, il va revoir un peu tous les gens qu'il connaît qui viennent lui faire un spectacle autour de sa vie. Et là, bah, c'est le MC de la soirée qui lui dit bye bye love, au revoir la vie, au revoir l'amour. C'est le moment où c'est la fin, c'est super. Et en même temps, c'est en chanson et c'est merveilleux. Donc même la mort, il arrive à traiter ça en comédie musicale.
Bye-bye, happiness.
Hello, loneliness. I think I'm gonna die. I think I'm gonna die.
Bye bye love, bye bye sweet caress. Hello emptiness, I feel like I could die. Bye bye your life goodbye. Bye bye my life goodbye.
Bye bye your life goodbye.
2, 3, 4, 5, 6. His baby with someone new. She sure looks happy.
I sure am blue.
He sure is blue.
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 I sure am blue.
Le choix d'Alexis Michalik, All the Jazz, ça vous inspirerait une mise en scène, ça, par exemple ?
Ouais, bah, disons que c'est marrant, la vie de cet artiste-là qui monte des shows, etc. Je m'identifie un petit peu, quoi. Bon, même si je prends quand même beaucoup moins de drogue que le personnage principal, mais non, ce film, il est super. À tous les gens qui ne l'ont pas vu, voyez-le, c'est un super film de Bob Fosse, All the Jazz.
Non, mais à chaque fois, vous dites oui, je vais vite parce que je ne sais jamais quand est-ce que je vais disparaître. Bah, c'est bizarre que vous avez choisi ça quand même comme titre.
Bah, c'est vrai, c'est ma question. Mais moi, je pense que c'est une génial. Thématique qui obsède absolument tous les artistes. Hein, j'en suis sûr. Hein. L'imminence de ah là là, mais il faut que je fasse quelque chose parce que le temps passe et la mort approche et le vieillissement et tout ça. C'est, je ne sais pas si vous, c'est pareil. Non, Thomas, toi ?
Ok, point des primes. Alors, l'imminence, le temps passe. Peut-être on sera mort demain, c'est vrai. Peut-être. Ou même en sortant de ce studio, peut-être. Est-ce que c'est pour ça qu'on le fait ? C'est la question de ce que nous racontait tout à l'heure Alain. Moi, je ne sais pas pourquoi je fais ce métier. Je ne sais pas d'où vient ce désir. J'essaie et je pense que je le fais pour essayer de comprendre pourquoi. Mais je ne pense pas que ce soit lutter contre la disparition ou la mort. Vraiment,
non,
je crois pas.
Non, ce n'est pas lutter contre, c'est se dépêcher avant d'eux. Parce que c'est inéluctable. On est tous voués à y arriver. Donc,
pardon, je vais juste dire un truc sur Alain ce que Moubile, dit Alexis, hein. Qui confirme ce qu'il dit. C'est que je n'ai jamais eu l'idée de traiter ces sujets ni de partir de quelque chose qui n'avait pas une précédence ou littéraire ou opératique, ou quelque chose, un sujet mythique qui fait que j'avais une base de départ. Et pour la première fois, là, je suis en train d'écrire un film musical, qui sera un film américain, je pense, qui traite de la vie, la mort, l'amour et le jazz. Le jazz, c'est ce avec quoi j'ai commencé ma vie. Quand j'avais 13 ans, j'ai commencé par être un fou amateur de jazz. J'ai découvert la chanson beaucoup plus tard, et le théâtre chanté encore plus tard. Et donc, est-ce que j'essaye de continuer à fermer ce cercle impossible ? C'est possible.
Alexis Michalik, vous questions. Parliez avec Thomas Joly, vous avez plein de questions, et notamment à Thomas Joly.
J'ai des questions pour tout le monde.
Non mais Thomas Joly, il était
déjà,
tout oui là. Hein.
Ouais, j'en ai deux ou trois.
Allez-y. Alors,
Thomas Joly, si tu étais président de la Comédie musicale française... Quelle serait ta première mesure ?
Alors, je sais. Ma première mesure serait, dans toutes les écoles, dès le CP, même la maternelle, pourquoi pas, dès l'école, cours de comédie musicale tout
toutes les semaines.
Ah ouais.
C'est sûr.
Ah ouais.
On chante, on danse, dès l'enfance.
Répondu, ça,
ouais, c'est, ça c'est ma première mesure. Voilà.
C'est bien, ouais, c'est une bonne idée. Ouais. On impose la comédie musicale.
C'est la seule, à mon avis.
C'est bien, moi, je trouve ça pas mal. Moi, j'en ai pour tout le monde. Allez, Alex Baupin. Quelle est la chanson que tu aurais aimé écrire et celle que tu aurais préféré ne pas écrire?
Ah. Bon, ne pas écrire, c'est facile, il y en a plein. Non, alors, on pose souvent ces questions-là. Quelle est la chanson que tu aurais aimé écrire? Et curieusement, il n'y en a pas tant que ça que j'aurais aimé écrire. Parce que si j'aime des chansons, c'est parce qu'elles n'ont pas été écrites par moi, justement, ou pas été chantées par moi, ou que c'est des auteurs que j'aime qui les ont faites. Et donc.
Ta chanson préférée, alors?
Ah, ma chanson préférée, ça change tous les jours, mais globalement, il y en a une qui revient souvent, c'est une chanson qui s'appelait Pulmarine, qui était chantée par Isabella Gianni. Voilà. Parce que ça réunissait, quand j'étais plus jeune, Isabella Gianni, à un moment où elle est sublime dans tous les sens du terme. Gainsbourg, que j'aimais beaucoup. Et puis, peut-être, le clip de Luc Besson, qui reste à ce jour, je pense, son meilleur film. C'est un grand, grand compliment, mais c'est un clip, je trouve, vraiment. Hein. Et je trouve que c'est, et tout ça crée une espèce de mythologie sublime, qui est celle des années 80, qui est celle à laquelle, moi, enfant, j'étais très attaché, fatalement.
Thomas Joly, dites-moi, vous êtes venu vous aussi avec un choix, alors là c'est vraiment immodeste, hein. Vous avez choisi Starmania, bon c'est malin, et en même temps je me dis peut-être qu'on va apprendre des choses, on va apprendre des choses sur votre nouvelle mise en scène.
Je sais quel choix, mais j'ai pas choisi n'importe laquelle.
Alors dites-nous, c'est quoi?
C'est le duo.
Oui, mais
c'est le duo d'adieu.
Oui, mais c'est quoi?
Qui apparaît qu'à partir de 89, au moment où, parce qu'en 78 il n'est pas là ce duo, il est rajouté à l'œuvre en 89, au moment où Marie-Jeanne et Ziggy se séparent, hein, se disent adieu, puisque leur planète se sépare, et ben, le duo d'adieu, quoi, j'ai pas, voilà. Et je trouve que c'est la chanson la plus, non, pas la plus, mais l'une des plus simples et des plus tristes, finalement, sur la question de la rupture amoureuse. Et je me suis dit, tiens, parlons de ça aussi, parce que la comédie musicale, ça parle de rupture amoureuse aussi. On s'aime et puis on se quitte.
Renaud Hanson, Réjeanne Perry.
Ziggy, qu'est-ce que je ferais sans lui? Il est toute ma vie. Il arrive toujours à minuit. Quand je l'attends, j'ai peur pour lui. Je me demande ce qu'il fait, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Te voilà, j'étais inquiète. Prends ton café et je suis prête.
Marie-Jeanne, je regrette. Ce soir, on n'ira pas danser. Je suis venue t'annoncer quelque chose qui va te faire de la peine, je suppose. Je ne viendrai plus te chercher tous les soirs pour aller danser. Je suis venu t'annoncer que je pars. Nos planètes se séparent.
Ziggy, t'es mon seul ami.
Tu sais, j'ai revu Sadia quelques fois. Elle m'a fait engager comme disc jockey au Nadiland, la discothèque de 0 janvier.
Qu'est-ce que Sadia vient faire dans cette histoire?
Elle a des amis au pouvoir.
Alors, elle a laissé tomber les étoiles noires.
Si tu veux savoir la vérité, Sadia travaille pour 0 janvier.
Ziggy, tu me fais marcher. Dis-moi que c'est pas vrai.
Nos planètes se séparent comme la nuit.
sans amour.
Le duo d'adieu de Ziggy et de Marie-Jeanne, la serveuse automate.
À quoi ça sert de vivre s'il faut vivre sans amour? Je sais pas, on peut en discuter si tu veux, Laurent.
Thomas Joly, c'est
une belle question quand même.
Oui, c'est une très belle question. Et ça va être Thomas Joly, vous qui allez mettre en scène, qui allez travailler tout cet été
voilà.
Sur cette.
Avec cette thématique-là, effectivement.
De Starmania.
Et ouais.
C'est vrai, ça va être ça au centre de Starmania? Non.
Bah, Starmania est quand même une œuvre très noire, avec des très beaux airs qu'on connaît beaucoup, mais c'est quand même une œuvre sur la solitude, sur le besoin d'existence, sur l'abandon, sur le manque d'amour, sur le manque des choses très très noires, quoi. Presque, on pourrait dire, une œuvre sur la dépression, sur un état dépressif en tout cas. Tous les personnages vont quand même très mal et tous meurent. Donc,
tu vends hyper bien le choix, en tout cas.
Alexis Michalik, qui est très très fort pour faire venir les gens dans les
salles. Ok, on sait bien que les gens aiment bien quand on dit on rigole, c'est frais, machin, on sait. Mais les gens vivent aussi des trucs noirs. Et je sais que Starmania est une œuvre populaire pour ça, parce qu'elle met des mots sur des sentiments noirs qu'on connaît tous.
Alors, dites-moi, Thomas Joly, voilà, on est entre grosses têtes de la comédie musicale. N'hésitez pas, avant de commencer les répétitions, à poser toutes les questions qui viennent par la tête à Alexis Michalik, à Mary Hopper, à Alain Boubli, là, bah, okay. Le sort et Alex Baupin.
Alors, moi, j'ai une question pour Alex Baupin. Tu as composé des chansons pour les chansons d'amour, de comédie musicale. Donc, moi, j'ai la sensation que dans les comédies musicales, souvent, pas tout le temps, mais souvent, dès que le personnage n'arrive plus à parler pour s'exprimer, il se met à chanter. Alors, toi qui es compositeur, quel est, à ton avis, le plus de la musique, le plus du chanter par rapport au parler, et comment traites-tu ça?
En fait... Oui, c'est vrai. En fait, moi, c'était plutôt le plus des chansons. J'écrivais à la musique et aussi les paroles des chansons, ouais. Comme demandait Christophe Honoré pour le film. Et le truc de Christophe, c'était de se dire, il y a des moments où, si on exprime vraiment certains sentiments, c'est des dialogues très compliqués à écrire parce qu'ils deviennent écrits de façon un peu quotidienne, comme ça, extrêmement pathos, c'est un petit peu lourdeau et un petit peu, voilà. Et il trouvait, et moi, je suis assez d'accord, que la chanson, qui est quand même le terrain d'expression du lyrisme, permet de dire des choses qui, si on les posait, si on les disait, si on les jouait... Par exemple, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus abominable que des gens qui jouent des chansons, tu sais. Mmh. On va prendre juste le texte et vous allez voir, c'est de la poésie, sans la musique et sans ce qu'apporte l'incarnation d'un chanteur. Moi, à chaque fois que quelqu'un fait ça, j'ai la peau qui pique, je me dis qu'il faut absolument qu'elle arrête tout de suite, parce que voilà. Et donc, il y a peut-être ça, en tout cas, dans un truc comme les chansons d'amour qui parlent d'histoire d'amour comme Starmania, c'est qu'à un moment donné, les chansons, elles permettent d'éviter, puis j'espère qu'elle sublime aussi quelque chose, mais un dialogue qui, tout d'un coup, si on parle de sentiments, c'est très difficile à écrire et à interpréter, autrement qu'en les chantant. Et après, il y a des gens qui détestent ça. Hein.
Moi, je voudrais revenir sur les chansons d'amour.
Alexis Michalik, oui.
Très belle chanson, mais il y a une rime qui, je crois, m'est restée dans la tête depuis tout ce temps et j'aimerais te demander pourquoi.
Alors, vas-y.
Je suis breton, j'aime la crêpe au citron.
Je suis beau, jeune et breton, j'adore l'océan et les crêpes au citron.
Tout à fait.
Alors, en fait, c'est une. Alors, j'ai rarement laissé. Mais je me défausse pas, mais c'est vrai. Au départ, Honoré voulait qu'on écrive Je suis beau, jeune et breton, des siècles de fortune à qui me touche le pompon. Et on était un peu, non mais on était un peu à la bourre sur le truc et tout, et tout le monde me parle de cette phrase, comme quoi des fois les trucs qu'on écrit, je lui dis non, pompon là, Christophe, c'est pas possible. Et donc je lui dis, on a qu'à dire à ce moment-là, je sens la crêpe, l'océan, les crêpes, enfin l'amour, l'océan, les crêpes au citron. Il m'a dit c'est super. Il était tard et j'ai cédé. Mais il y a dans ces paroles un peu ridicules ce qui faisait le charme un peu désuet de certains trucs de Demi, par exemple. Il y a un truc comme ça là-dedans aussi.
Alors, j'ai une transition géniale avec Demi. Merci, Alex.
Thomas Joly, toujours.
Parce que j'ai aussi des questions à poser à Marie.
Ouais.
À Marie Hopper. Qu'est-ce que ça fait? Tout le monde a dû te la poser, mais puisque tu es là, j'en profite de passer après Catherine Deneuve dans Podane. Mais plus sérieusement, comment on travaille un rôle comme celui de Podane, dans lequel j'ai pu t'applaudir, d'un rôle qui est pensé pour l'écran et tout à coup qui passe sur une scène? Comment ça s'est passé pour toi, tout ça?
Oui, évidemment, c'est impossible de passer après Catherine Deneuve. C'est vraiment, elle a laissé une image iconique avec ses films et on ne peut évidemment pas reproduire ça sur scène. Donc l'idée d'adapter un film qui a marqué les esprits comme Podane, c'est aussi de faire une nouvelle version. Donc c'était important aussi pour moi, évidemment, de m'inspirer de tout cet univers de Jacques Demy que j'aime profondément et grâce aux musiques de Michel Legrand aussi, de peut-être de l'adapter avec ce qu'on est aujourd'hui, nous, puis de partir de soi toujours. Je pense que peut-être que quand on aborde un rôle, ça part peut-être au départ toujours de soi, mais voilà, d'essayer de, je sais pas, de s'inspirer évidemment de ce qui a été fait, mais de s'approprier.
Eh bien, merci beaucoup, les grosses têtes. J'avais envie de terminer cette émission par un extrait des producteurs.
Non, mais le statut, là.
Un grand merci à vous, les grosses têtes de 42e rue. Merci, merci beaucoup, Thomas Joly. On vient.
Je peux poser une dernière question.
Alexis Michalik, allez-y.
Oui. C'est trop tard.
C'est trop tard, mais. C'est pas... Après, oui ou non ?
Je vais la poser quand même.
Allez-y, oui ou non ?
Chacun, s'il ne devait rester qu'une seule comédie musicale, laquelle on garde ?
Ah, ça marche pas avec oui et non, mais c'est pas grave. Alex Baupin ?
Bah, Chantons sous la pluie, tiens, ça t'apprendra.
Oh, voilà. C'est trop dur.
Valérie Le Sort ?
Je crois que All That Jazz, moi, c'est.
Alain Boublil.
West Side Story.
Ah bah ça, je m'y attendais. Normal. Marie Hopper qui réfléchit intensément.
C'est parti, c'est maintenant. Top.
Alors, Thomas
My Fair Lady.
My Fair Lady, très bien.
Thomas Joly.
Sweeney Todd.
Ok, d'accord.
Et Alexis Michalik.
Les producteurs, bien sûr, au Théâtre de Paris jusqu'au 26 juin.
Et on dit que c'est moi qui suis immobilier.
Les calculs sans fin.
Malheureux si j'additionne ce qui compte. Dans ma vie, je trouve rien. Pourtant, au fond de mon âme, un rêve secret me consume. Chaque fois, mon cœur s'enflamme quand je me vois dans le costume.
Vas-y, mais si, shuffle up step.
Non,
vas-y,
c'est pas quelque chose d'autre.
Montre à Laurent Vallière ce que tu sais faire.
Tout ça pour ça, présente.
Allez, vas-y.
Faut que tu chantes.
Je voudrais être un producteur, avoir un show à Broadway. Je voudrais être un producteur, chaque soir affiché complet.
On y croit,
vas-y.
Je voudrais être un producteur, porter le haut de forme et la canne. Car si j'étais un producteur, je serais le tombeur de ces dames.
Merci les grosses têtes de 42e rue. Marie Hopper, on viendra vous voir à la Comédie Française. Alexis Michalik, on viendra voir vos producteurs. Et on viendra également vous voir à Avignon. Thomas Joly, on viendra vous voir répéter Starmania tout l'été. On peut ou pas. Alain Boublil, on viendra voir Les Misérables en 2024 au Théâtre du Châtelet. On est très contents de leur voir revenir en France. Valérie Le Sort, on ira voir La Péricole à partir de ce soir à l'Opéra Comique et La Petite Boutique des Horreurs en décembre à l'Opéra Comique. Et Alex Baupin, on attend de pied ferme, joli, oui. opérette,
un spectacle avec des chansons.
Merci à la fidèle équipe de 42e rue, Martine Monique qui a préparé toute cette émission, Céline Parfenoff, Fabien Flora et aujourd'hui Claire Lagarde à la réalisation, Philippe Thibault à la technique, Laurent Vallière, je vous souhaite un très bon dimanche, merci les grosses têtes.
À réécouter sur francemusique.fr.